Deutsche Welle, Magazine Environnement.
Au menu de ce magazine, la préservation de la biodiversité marine. Et nous ferons un tour à Ouganda, la découverte d'un kit solaire qui vient en aide aux populations. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosiviti Asu, au micro.
Il y a de la pollution et aussi le changement climatique. Mais il y a une solution qui est très simple. Si on arrête de pêcher dans certaines zones, si on crée des réserves, la vie marine se récupère très rapidement.
Les océans menacés par le réchauffement climatique et la pollution ont été la semaine dernière l'objet d'une conférence des Nations Unies à Washington. La rencontre a été organisée dans le but d'une mobilisation générale visant à inverser la dégradation préoccupante du plus grand écosystème planétaire. Un écosystème vital au bien-être de l'humanité. À Washington, les participants ont été unanimes sur un fait, la diminution des stocks de poissons qui atteint des seuils critiques. Face à la surpêche et la mauvaise gestion des ressources halieutiques, le scientifique et explorateur de National Geographic, Enrique Sala, appelle à la création d'aires marines protégées.
Il y a trop de pêche, il y a de la pollution et aussi le changement climatique. Mais il y a une solution qui est très simple. Si on arrête de pêcher dans certaines zones, si on crée des réserves, la vie marine se récupère très rapidement. Et en plus, ça aide à récupérer les populations de poissons autour de ces réserves. Donc la pêche s'améliore autour. Alors ces réserves sont comme des investissements. Il y a plein d'endroits où des entreprises de plongée, écotourisme se sont développées et elles amènent beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de bénéfices économiques que la pêche. Et par exemple, la Grande Barrière de Récif en Australie amène presque 5 milliards de dollars à l'Australie chaque année. Et ça aussi supporte 60 000 emplois. Et en plus, la valeur touristique est 40 fois plus grande que la valeur de la pêche.
L'autre constat qui constitue aussi un danger selon l'explorateur Enrique Sala est le degré d'acidification des océans ou la quantité des déchets plastiques qui les polluent.
Ce qu'il faut faire, c'est très difficile à ce point-là de nettoyer le plastique de la mer parce que la plupart du plastique est de particules très petites et sous la surface, même dans les parties la plus profonde de l'océan. Alors, la seule solution à long terme, c'est d'éviter la contamination plastique. Ça veut dire qu'il faut changer notre économie linéaire où on produit quelque chose, on l'utilise. Par exemple, le sac en plastique supermarché, la vie moyenne d'un sac plastique, c'est 20 minutes. Après, on le jette. Et 80% du plastique à l'océan, ça vient de la terre. Alors, il faut changer à une économie circulaire où tous les matériaux feront partie de notre produit après, où il n'y a pas de déchets. Alors, il faut un changement dramatique dans les processus industriels. Et en plus, les gouvernements doivent passer à régulation et en plus incentiver ces changements à l'économie circulaire.
Le scientifique et explorateur de National Geographic, Enrique Sala, les océans et les ressources halieutiques sont particulièrement importants pour les communautés côtières qui aujourd'hui représentent 37% de la population mondiale. C'est le cas par exemple au Sénégal, un pays côtier qui compte beaucoup sur le secteur, mais confronté à la pollution et à la surpêche. Oumar Gueye est le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime du Sénégal.
Le Sénégal est un pays côtier. Nous avons 718 km de côte et nous vivons aussi essentiellement de la pêche. Le Sénégal, c'est la moyenne de consommation, c'est 29 kg par personne et par an, alors que la moyenne mondiale tourne autour de 20 kg. Nous sommes un grand pays de consommateurs de poissons. D'ailleurs, notre plat national s'appelle le tchéboudjen, le riz au poisson. Dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui est le référentiel unique de notre stratégie de développement économique et social, la pêche et les questions liées aux océans occupent une place importante. Nous avons pris des mesures très importantes dans le cadre de la protection de la ressource par un nouveau code de la pêche qui met en exergue des sanctions extrêmement sévères pour ceux qui font de la pêche illicite. Et entre autres mesures aussi pour protéger la ressource, nous avons augmenté les tailles de capture des poissons. Pourquoi ? Pour leur donner la chance de se reproduire avant d'être capturés. Donc nous avons pris ces mesures importantes, mais également faire en sorte que la pêche artisanale au Sénégal, qui occupe une place très importante, parce que plus de 85% des débarquements de poissons le sont par la pêche artisanale. Donc cette pêche artisanale également, elle est protégée, elle est organisée en co-gestion. Également lutter aussi, faire en sorte qu'il y ait de la valorisation des produits capturés pour qu'il y ait une meilleure augmentation de la valeur ajoutée. Et également développer l'aquaculture. Donc autant de mesures qui sont en train d'être prises pour être conformes à l'ODD 14, sans compter également le développement des aires marines protégées.
Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime du Sénégal, Oumar Gueye. Des activités économiques majeures comme le tourisme et le commerce dépendent aussi d'une bonne santé des océans. C'est ce qu'ont compris les autorités gabonaises qui veulent réconcilier nécessités humaines et impératifs environnementaux. Lee White est le directeur exécutif des parcs nationaux du Gabon.
L'idée, c'est de faire pour les océans ce qu'on a fait pour la forêt. Donc on a créé en 2002 13 parcs nationaux. On est maintenant à 21% des aires protégées à terre, mais on a un petit peu négligé la mer. Donc depuis 5 ans, on travaille pour identifier les aires protégées. On a fait 3 rondes de consultation publique pour définir ensemble avec les populations où mettre les aires protégées. Et donc le président de la République a annoncé la création de 9 parcs marins et de 11 réserves aquatiques. Donc 20 nouveaux aires protégées qui couvrent ensemble 26% de notre zone économique exclusive. Mais ce qui est génial en mer, c'est que toutes les études scientifiques montrent que quand vous créez des aires protégées où il n'y a pas de pêche, si vous les mettez surtout dans les zones de reproduction des poissons, après, on peut pêcher plus autour de ces aires protégées que comme si on ne les créait pas. Donc ça augmente la productivité. Donc ça va nous permettre de faire une pêche durable avec les prises beaucoup plus importantes une fois qu'on a reconstitué les stocks et qu'on les gère bien.
Lee White dirige les parcs nationaux du Gabon. Rappelons que la communauté internationale s'est fixé l'objectif de protéger plus de 10% des zones marines du monde d'ici à 2020. Si les engagements volontaires enregistrés lors de la conférence sur les océans sont tenus, cet objectif devrait être réalisé. Quelques chiffres à noter, les écosystèmes océaniques génèrent entre 3 000 et 6 000 milliards de dollars d'activités économiques chaque année, 100 milliards pour la pêche et l'aquaculture, ce qui représente 260 millions d'emplois dans le monde.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Nous partons à présent en Ouganda, dans une localité qu'on appelle Bouama, pour voir comment l'énergie solaire facilite la vie des populations. Johanna Goltchak et Tamara Vakanegel.
Véronica et sa mère ont mis 1h30 pour aller jusqu'à l'infirmerie du village à Bouvouama. La petite a une forte fièvre. Il n'y a pas de fenêtre dans la salle de consultation. L'infirmière examine Véronica à la lueur d'une lampe solaire et lui prescrit des médicaments. Par le passé, la salle aurait été éclairée par une lampe à pétrole et cela aurait empesté le fuel. Depuis que j'ai les lampes solaires, mon travail est plus facile. Le solaire a facilité mon travail, les 2 ou 3 dernières années, car je n'ai des lampes solaires que depuis quelques mois. J'ai dépensé beaucoup d'argent en pétrole. Ici, en Ouganda, plus de 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. Les zones rurales sont presque intégralement hors réseau. Les gens dépensent plus de la moitié de leur salaire mensuel à acheter du kérosène, presque tous les jours. Cet argent pourrait être dépensé dans d'autres objets de première nécessité. À 130 km de Louero, une équipe de la compagnie Solar Sister forme des femmes des villages alentours à l'énergie solaire. Elles sont formées pour devenir représentantes freelance en lampes solaires. Elles ouvrent non seulement des perspectives à leur communauté, mais cela leur rapporte aussi. Elles gagnent 10% sur chaque vente. Cela a changé ma vie. Je peux acheter du sucre, je peux acheter du savon après avoir vendu le produit. Je peux payer les frais de scolarité de l'école primaire de mon petit-fils. J'en suis fière. Aussitôt le séminaire de formation terminé, les femmes partent travailler. Sarah Serunyongi s'est révélée être une commerciale particulièrement douée. Elle explique à cette cliente potentielle qu'en l'espace de 3 mois, elle sera rentrée dans ses frais, qu'elle n'aura plus besoin d'acheter de kérosène et que c'est bien plus sûr aussi.
Si j'utilise de l'énergie solaire, je n'aurai plus à m'inquiéter que la lampe à pétrole provoque un feu. Je n'aurai plus à m'inquiéter qu'un de mes enfants soit brûlé. L'un de mes enfants a déjà été brûlé à la jambe à cause d'une lampe à pétrole. Solar Sister a son siège dans la capitale ougandaise, Kampala. Le projet aide à soulager la pauvreté parmi les femmes en Ouganda, en Tanzanie et au Nigeria, et cela est bénéfique à l'environnement. Dans le monde, près de 250 millions de foyers n'ont pas accès à l'électricité. Beaucoup de gens ont recours à des lampes à pétrole. Solar Sister a déjà vendu près de 100 000 produits solaires, dont des lampes et des cuisinières à travers la région. Les lampes solaires aident aussi d'autres femmes à s'en sortir avec leurs propres affaires. Une couturière indépendante, Teddy Namirembe, habite à environ 70 km de la capitale. Elle utilise la lumière des lampes solaires pour travailler la nuit et gagne presque 10 euros de plus qu'avant. Elle peut désormais aider ses trois enfants toute seule. Je travaille dur pour gagner de l'argent pour moi et mes enfants. Je veux que mes enfants aillent à l'école. Je veux qu'ils étudient sérieusement pour pouvoir aller un jour à l'université. De retour à Kampala, les commerciales se réunissent après une bonne journée. Plus de 2500 entrepreneurs travaillent actuellement dans tout l'Ouganda, la Tanzanie et le Nigeria. Grâce à leur travail, les femmes ont trouvé une nouvelle façon d'être indépendantes, tout en fournissant une alternative énergétique saine à leur famille.
Merci à Tamara Vakanegel et Johanna Goldchak. Était au menu de ce magazine l'importance des océans et l'apport de l'énergie solaire dans les villages en Ouganda. Merci également à vous de nous avoir suivis. Kosi Vitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.
Me and my brother were talking to each other about what makes a man. Was it brain or brawn or the month you were born? We just couldn't understand.